Crédit Immobilier de Banque Atlantique, la solution pour financer vos projets immobiliers, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 30 minutes, vos réactions, et elles sont nombreuses ce matin, nous allons parler de la Côte d'Ivoire avec la publication depuis minuit de la liste électorale définitive en vue de l'élection présidentielle du mois d'octobre. Une liste qui ne sera pas révisée d'ici le scrutin. Le délai est trop court, a précisé le président de la commission électorale. C'est pourtant une revendication de l'opposition. Une liste qui tient compte des radiations ordonnées par la justice. Autrement dit, plusieurs personnalités de l'opposition ne pourront pas briguer la magistrature suprême. Vos analyses, vos réactions, évidemment, nous intéressent. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Et je lirai, comme tous les matins, quelques-unes des réactions postées sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec Alpha, qui nous appelle de Dakar, au Sénégal. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu. Merci de nous écouter dans la capitale sénégalaise. Quelles sont vos questions?
J'ai deux questions à poser.
Oui.
J'ai lu sur le site d'Info Migrants que près de 1200 migrants sont arrivés au Royaume-Uni en l'espace de seulement une journée.
Oui.
Alors, j'ai deux questions à poser à cet égard. La première, c'est: comment expliquer que les traversées par la Manche continuent d'augmenter malgré les dispositifs mis en place par les gouvernements français et britanniques?
Alors, on va déjà répondre à cette première question. Vous parlez d'une journée record, effectivement. 1195 migrants pour la seule journée de samedi. Record en une seule journée, jamais atteint depuis 2022. Bonjour Louis Chahuneau.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes justement journaliste au site Info Migrants, dont France Média Monde est partenaire. Depuis le début de l'année, on bat des records. Près de 15 000 personnes ont traversé illégalement la Manche. Comment expliquer ce phénomène alors que, Alpha le rappelait à l'instant à juste titre, des mesures ont été prises, aussi bien du côté britannique que du côté français, pour tenter d'enrayer ces traversées qui sont dangereuses?
Oui, bonjour Alpha. En fait, il y a deux explications. D'abord, la météo. Avec le retour des beaux jours, les fenêtres météo sont plus favorables aux traversées de la Manche, ce qui explique une recrudescence des tentatives. Selon le ministère de l'Intérieur britannique, il y a eu deux fois plus de jours de mer calme depuis avril 2024 que l'année précédente. Et par ailleurs, les centaines de policiers et gendarmes qui avaient été mobilisés sur le littoral pendant les Jeux Olympiques 2024 ne sont plus là, ce qui explique que les traversées aient repris de plus belle.
Alors justement, des députés britanniques de l'opposition ont partagé une photo sur les réseaux sociaux montrant des policiers français qui semblent, je dis bien semblent, assister au départ de migrants sans réagir.
Oui, c'est pas très étonnant. La police française n'agit pas en mer, uniquement sur le littoral. L'espace maritime dépend de la préfecture maritime, dont la mission première est le sauvetage et non les arrestations. D'ailleurs, les Anglais aimeraient bien que la France change sa loi pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir dans l'eau. Chez nous, le ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a lui aussi appelé à un changement de doctrine qui ouvrirait la voie à des interceptions de bateaux déjà à l'eau. Oui.
Et en quoi cela aide les passeurs de migrants?
En fait, les passeurs de migrants connaissent très bien les consignes de la police et en profitent sciemment. Avant, ils enterraient les bateaux dans le sable et les migrants les déterraient au moment du départ. Mmh. Ça existe toujours, mais de plus en plus, ils mettent les canaux au large et les migrants les rejoignent en entrant dans l'eau, ce qui empêche les interceptions policières.
Oui. Alpha, votre deuxième question.
Ma deuxième question. Alors, le gouvernement britannique parle de créer des centres de retour dans les pays tiers. Mmh. Quand sait-on concrètement?
Ah, que sait-on de ce projet, lui, Chahuneau?
Oui, vous avez raison, c'est vrai, le Premier ministre britannique Keir Starmer en a parlé lors de sa visite en Albanie il y a deux semaines. L'Albanie, en fait, c'est actuellement le seul pays européen qui dispose sur son territoire de deux centres de retour, gérés et financés par l'Italie. Rome y envoie les migrants en situation irrégulière chez eux, dans l'espoir de les expulser vers leur pays d'origine. Mais dans les faits, ces centres de retour sont critiqués par les ONG et ils n'ont accueilli qu'une quarantaine de migrants jusqu'à présent, en raison de l'opposition des juges italiens qui s'opposent à ces renvois.
Oui, en tout cas, les Anglais veulent s'en inspirer.
Oui, mais est-ce que ça va vraiment aboutir ? Rien n'est moins sûr. Londres avait déjà imaginé et même fait construire des centres de retour au Rwanda. Mais le plan de l'ancien Premier ministre conservateur Rishi Sunak n'a jamais abouti pour des questions légales. Et malgré cet échec rwandais, l'idée des centres de retour fait non seulement son chemin au Royaume-Uni, mais aussi en Europe. En mars dernier, la Commission européenne a déclaré qu'elle voulait offrir un cadre légal à la création de ces hubs de retour en dehors de ses frontières. Affaire à suivre donc.
Effectivement. Alpha, voilà pour nos explications, nos réponses. Êtes-vous satisfait ?
Formidable.
Bon.
Formidable.
Eh bien, écoutez, on est ravis. Merci de vos encouragements. Bonne journée à Dakar et à très vite. Lui, Shaino, on vous lit donc sur le site Info Migrant, dont RFI et France 24 sont partenaires. 8h16 en temps universel, 10h16 ici à Paris. Vos questions à la rédaction 33 9 693 693 70. Des questions sur le Mali. Après les attaques menées lundi à Tombouctou par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Bonjour Kalilou.
Oui, bonjour Rouhani, bonjour à tous les auditeurs.
Au Bénin, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, pourquoi est-il si difficile d'obtenir des chiffres clairs ?
Des chiffres clairs, pourquoi est-il si difficile d'avoir un bilan humain précis de ces dernières attaques ? David Bachet, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Kalilou.
Journaliste au service Afrique de RFI, je rappelle que le camp militaire, l'aéroport et plusieurs postes de contrôle de Tombouctou ont été visés donc par le JNIM. Pourquoi est-il si difficile d'avoir un bilan précis ?
Alors, des chiffres existent. La difficulté, c'est qu'ils sont incomplets et qu'ils sont donnés directement par les parties prenantes qui assument de ne pas tout dire ou qui peuvent être dans des démarches de propagande. Je m'explique. L'armée malienne, pour commencer, a donné un bilan de 14 terroristes neutralisés, 31 présumés terroristes interpellés et du matériel récupéré. C'est précis, mais on est prié de les croire. En l'occurrence, des images de cadavres ont été diffusées, des images des armes récupérées aussi. Ces images n'étaient que partielles. On n'a pas vu les 14 corps, mais quand même, elles existent et c'est rarement le cas. Aucun détail en revanche sur le profil des 31 présumés djihadistes interpellés. Par ailleurs, l'armée n'a donné aucun chiffre sur ses propres pertes. C'est une doctrine qui est d'ailleurs clairement revendiquée par l'armée. Par le passé, des responsables militaires ont déjà expliqué qu'il s'agissait de ne pas saper le moral des troupes, de ne pas faire le jeu de l'ennemi. Et donc, c'est présenté comme une stratégie, il faut le dire, qu'on peut observer ailleurs dans le monde, sur d'autres théâtres.
Mais là, pour le cas du Mali, mais aussi du Niger et du Burkina Faso, qui sont, rappelons-le, alliés au sein de l'AES, cette doctrine semble vraiment poussée à son paroxysme.
Et c'est ce que déplorent de nombreux Maliens, notamment des proches des soldats tués, parce que les familles attendent parfois longtemps avant d'apprendre le décès de leurs proches. Dans ces cas, les soldats tombés au champ d'honneur sont également privés de funérailles officielles, en bonne et due forme. J'ai reçu plusieurs témoignages en ce sens. D'autres y voient aussi une manière pour le régime en place de cacher la réalité aux populations. À Tombouctou, l'armée a reconnu l'attaque et s'est ouvertement félicitée de l'avoir déjouée, même si le JNIM parlait d'une opération suicide. Mais il y a une dizaine de jours, le 23 mai, le camp militaire de Dioura, dans le centre du pays, a été décimé sans aucun communiqué officiel. Officiellement, cette attaque n'existe pas. Et d'après nos sources, y compris sécuritaires maliennes, il y a quand même eu 41 morts à Dioura. L'attaque du camp de Boulikessi, dimanche, aurait fait une centaines de morts.
Ouais, pour Boulikessi, l'armée a reconnu l'attaque. Il y a d'ailleurs eu un communiqué.
Oui, l'armée a reconnu l'attaque. Elle a aussi reconnu qu'il y avait eu des morts devant l'ampleur de la tragédie, mais sans donner de chiffres. Il y a beaucoup d'autres exemples. C'est même la norme, en fait. Donc, certains Maliens voudraient plus de transparence. Ils voudraient savoir ce qui se passe réellement dans le pays. D'autres estiment que les citoyens n'ont pas à être informés sur ces réalités de terrain et que c'est l'affaire de l'État et de l'armée. Je vous laisse, Kalilou, vous faire votre propre opinion. Pour revenir à l'attaque de Tombouctou, plusieurs sources sur place me confirment qu'il y a eu plusieurs morts parmi les soldats maliens, paix à leur âme. On me dit au moins 5, mais impossible de recouper un chiffre total, précis, à ce stade. Le JNIM, lui, a revendiqué plusieurs dizaines de morts et de blessés.
Oui, parce que le JNIM, vous le disiez, a communiqué, lui.
Oui, mais le JNIM, les djihadistes non plus, ne donnent aucun détail sur leurs propres pertes. Ils ne confirment pas les chiffres avancés par l'armée malienne sur le nombre de djihadistes tués et ils ne les démentent pas non plus. Quant au nombre de militaires maliens tués ou blessés, l'estimation du JNIM est vraiment très floue et elle est évidemment douteuse par principe, puisque le JNIM est dans une démarche de propagande. Les djihadistes ont eux aussi diffusé des images d'armes, d'équipements militaires et de pièces d'identité de soldats présentées comme le butin de ces attaques. attaque. Mais là encore, on est prié de les croire. Ces images ont été prises après coup, pas sur le moment, pas sur les lieux. Donc seules les familles des soldats, si elles ont vu ces images, et l'armée pourraient dire si ces pièces d'identité sont vraiment celles de soldats tombés à Tombouctou ou pas. Je précise qu'à Tombouctou, il y a eu plusieurs attaques simultanées, dont une attaque suicide, et que l'opération a été rapide et menée par un groupe d'hommes restreint, même si on ne connaît pas le nombre précis.
Ce qui n'est pas toujours le cas, ça ne se passe pas toujours comme ça.
Non, je parlais des attaques récentes de Djoura et de Boulikessi. Là, les djihadistes arrivent par centaines, à moto, ils prennent possession des camps et ils se filment en situation. Ils filment les cadavres des militaires dans le camp même, ils filment les soldats qu'ils capturent aussi, ce qui est effroyable, insoutenable par moment, mais qui atteint son but. Dans ce cas précis, la réalité de l'attaque est étalée et difficile à cacher. Et à nous, journalistes, ces images apportent des éléments malheureusement très concrets pour comprendre et pour informer. Même si, évidemment, nous n'en relayons jamais ni la totalité, ni les détails les plus humiliants, afin de ne pas faire le jeu des djihadistes. C'est d'ailleurs toute la difficulté que pose votre question, Khalilou, et je vais terminer là-dessus. Comment informer, c'est notre mission, pour éclairer nos auditeurs sur la situation de leur pays ou du monde. Comment informer donc sans faire le jeu des belligérants ou sans qu'on nous accuse de vouloir le faire, de prendre parti? C'est un classique du journalisme en temps de guerre.
Khalilou, je crois que vous avez une dernière question à poser à David Bachet.
Oui, maintenant, quelle stratégie les autorités maliennes envisagent-elles pour renforcer la sécurité dans les zones les plus touchées?
David Bachet.
D'abord, renforcer la présence de l'armée. Les déclarations des responsables militaires et politiques sont toujours les mêmes. L'armée monte en puissance, les terroristes sont en débandade, ils attaquent parce qu'ils sont aux abois, l'armée gagne du terrain. Là, je ne fais que citer des communiqués et des déclarations officielles. Dans son plan d'action gouvernemental 2025-2026, présenté il y a deux semaines, le Premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga, a annoncé le recrutement de 15 000 soldats et 9 000 agents des forces de sécurité supplémentaires, et la construction de 6 nouveaux camps militaires dans le centre et dans le sud du pays. Objectif, je cite, « renforcer la présence de l'État dans les zones à forte insécurité ». L'acquisition d'armes et de matériel doit aussi se poursuivre. Une vaste opération militaire est en cours, baptisée Dugukoloko, en bambara ça veut dire « la terre retrouvée ». Cette opération a été lancée fin avril, elle succède à l'opération Maliko et elle s'étend sur tout le territoire. En revanche, Khalilou, je ne pourrais évidemment pas rentrer dans le détail des stratégies militaires qui sont mises en œuvre, parce que pour des raisons évidentes de sécurité et d'efficacité, eh bien, elles ne sont pas publiques.
En tout cas, à vous entendre, David Bachet, la réponse militaire est la première réponse des autorités.
La première et la plus clairement affichée. J'ajoute qu'il y a aussi celle des accords locaux conclus avec les djihadistes par des centaines de villages dans le centre et dans le nord du Mali. Alors, avec la bienveillance contrainte de l'État, qui ne parvient pas à sécuriser tout le territoire, même si c'est évidemment l'objectif. Avec ces accords qui se sont multipliés ces derniers mois, les villages acceptent de se soumettre aux règles des djihadistes, paiement de l'impôt, fermeture des écoles publiques, règles religieuses, manière de prier, etc. Mais en échange, les villageois sont autorisés, si je puis dire, à se déplacer, à aller travailler aux champs sans se faire tuer. Et ça, les villages et l'État malien se résignent à l'accepter là où ils n'ont plus vraiment le choix. Le dialogue avec les groupes armés maliens à l'échelle nationale est aussi une option, proposée à de nombreuses reprises ces dernières années lors de nombreuses concertations et autres consultations nationales. Il semble qu'il y ait eu ces derniers mois des velléités d'amorcer un tel dialogue, mais rien d'officiel et surtout rien de concluant à ce stade.
Khalilou, voilà pour les explications de David Bachet.
Oui, merci beaucoup. À vous et grand merci à David Bachet aussi.
Journaliste au service Afrique de RFI, merci, on a Khalilou. Pris le temps, David, ce matin de répondre à Khalilou, mais c'était important de rappeler tous les faits que vous venez de citer. Vos explications sont d'ailleurs à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio et sur notre chaîne WhatsApp, RFI Appel sur l'actualité. Explications à suivre en vidéo. Merci infiniment, David. 10h24 à Paris, on a le temps de prendre encore une question. Hervé, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, Hervé, passionné par l'actualité internationale, vous avez appris sur RFI que la Pologne avait un nouveau président et visiblement ça suscite quelques questions.
Exactement. C'est le candidat nationaliste qui remporte la présidentielle face à son rival pro-européen, le maire de Varsovie.
Oui.
pourquoi son élection suscite l'inquiétude des pays de l'Union européenne.
Oui, effectivement, on a lu ici et là les réactions de quelques chefs de gouvernement et présidents au sein de l'Union européenne. Son nom, puisque vous ne l'avez pas cité, c'est Karol Nawrocki. Il a vraiment été élu d'une courte tête, hein, avec 50,9% des voix. Bonjour Ulrich Buna.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste géopolitique, chercheur associé chez Eurocréative. Pourquoi la victoire de Karol Nawrocki inquiète certains partenaires européens ?
Alors, tout simplement parce que Karol Nawrocki est, comme d'ailleurs le président qu'il va remplacer, Andrzej Duda, quelqu'un qui est eurosceptique, qui a fait d'ailleurs campagne contre, on va dire, Bruxelles, hein, pour faire simple, donc le siège de l'Union européenne, et s'est toujours montré, tout comme son parti, le PiS de M. Kaczynski, s'est toujours montré extrêmement critique vis-à-vis de l'Union européenne, et effectivement, il est probable que la Pologne adopte une posture relativement hostile à toutes les initiatives européennes. Alors, il n'a pas tous les pleins pouvoirs, hein, le président polonais, c'est essentiellement le chef du gouvernement, mais il a un pouvoir de veto, ce qui va compliquer non seulement les discussions entre la Pologne et l'Union européenne, mais aussi les tentatives au sein de la Pologne d'essayer de revenir un petit peu dans un cadre légal un peu plus standard qui avait été abîmé ces dernières années avant le changement de gouvernement.
Effectivement, c'est important de le préciser. Il dispose de ce pouvoir donc de veto. Il peut bloquer donc toutes les lois proposées par notamment le Premier ministre qui, lui, pour le coup, est pro-européen, il est libéral. Pour continuer à présenter Karol Nawrocki, il est fan de Donald Trump. Il est trumpiste assumé.
Oui, alors effectivement, c'est l'un des éléments, hein, que l'on remarque en Pologne, mais pas que. L'effet Trump, on va dire ça simplement, donc c'est-à-dire des candidats plutôt nationalistes, plutôt populistes. Et donc effectivement, Karol Nawrocki s'inscrit complètement dans cette dynamique. Il a d'ailleurs obtenu les félicitations, enfin déjà le soutien de Donald Trump avant les élections et ensuite les félicitations de Donald Trump directement. Oui. Il est probable que l'on voit se multiplier ce genre de candidats. Certains gagnent comme en Pologne, d'autres perdent comme en Roumanie. Mais effectivement, on va voir se multiplier ces candidats populistes et nationalistes qui se sentent un petit peu poussés des ailes par la victoire de Donald Trump. Et on voit des sociétés de plus en plus clivées entre pro et anti, on va dire, au sein de ces pays.
Et Nawrocki a même été reçu dans le bureau ovale avant le premier tour de l'élection présidentielle en Pologne. C'était au début du mois de mai. Concernant l'Ukraine, ce nouveau président devrait quand même rassurer les Européens puisqu'il dit vouloir continuer à soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie.
Alors effectivement, mais le diable est dans les détails. C'est-à-dire que d'un côté, Karol Nawrocki, qui a une position on va dire contre la Russie relativement clair, donc effectivement va et pour continuer l'aide militaire à l'Ukraine. En revanche, il a une posture beaucoup plus, on va dire, réservée sur l'intégration européenne de l'Ukraine. Il dit que c'est mauvais pour les Polonais. Il est aussi contre l'aide aux réfugiés ukrainiens. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 millions d'Ukrainiens en Pologne, dont plus d'un million qui sont partis en Pologne se réfugier depuis 2022. Et là, pour le coup, il a un discours beaucoup plus populiste, disant que ces gens-là viennent, grosso modo, prendre l'argent et les emplois des Polonais. Donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'inquiétude, si vous voulez, sur l'aide militaire qui... La Pologne est un pays de transit fondamental, donc il n'y a pas d'inquiétude sur le fait que ça continue. En revanche, il est très clair que la Pologne va tout faire pour ralentir l'intégration européenne de l'Ukraine, et ça, c'est plus inquiétant.
Bon, on suivra ça en tout cas. Hervé, a-t-on répondu à vos questions ? Êtes-vous satisfait ? Ou peut-être en avez-vous une dernière ? Je ne sais pas.
Non, très satisfait, mais je voulais dire par rapport aussi à son slogan « La Pologne d'abord », je veux faire que c'est vraiment inquiétant.
Bon, vous êtes inquiet par son slogan de campagne qui était « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord », pour être précis. Voilà le slogan de Karol Nawrocki qui lui a donc permis de remporter cette élection, certes d'une courte tête, mais le voilà donc désormais nouveau président de la Pologne. Ulrich Buna, merci infiniment, bonne journée. Analyste géopolitique, chercheur associé chez Eurocréative. Je m'excuse auprès des auditeurs qui patientent au standard. Certains d'entre vous, notamment Fabrice à Douala, souhaitaient nous poser des questions ce matin, mais pas d'inquiétude, on revient demain. 8h10, temps universel, on vous rappellera. Vous serez d'ailleurs prioritaire, bien évidemment. Merci à tous de votre fidélité. Merci de nous suivre également sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube de RFI. On a franchi le cap des 2 millions d'abonnés il y a maintenant une quinzaine de jours. Vous nous suivez également sur la chaîne WhatsApp RFI Appels sur l'actualité. Tous les jours, on vous envoie des informations, les explications des journalistes de la rédaction, mais aussi on vous propose des sondages, on vous propose également les coulisses de l'émission. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne RFI Appels sur l'actualité, faites-le dès maintenant. Ça permet de maintenir le contact, de garder le contact tout au long de la journée. On revient dans 10 minutes, on parlera de la Côte d'Ivoire et de la présidence.